Alors, j'essaye de suivre un fil conducteur. La première chose que je vous ai enseignée il y a 2 ou 3 dimanches, c'est que nous sommes déclarés fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ça, ce sont des textes qu'on a lus. Le but de toute la création, c'est que nous soyons filles et fils de Dieu. C'est que nous ayons une relation réelle avec notre Père des cieux. C'est une relation d'amour, de vérité, de sainteté, autant qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, cette relation nous est destinée. C'est la qualité de la relation qu'entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, cette qualité nous est attribuée par Jésus, pour celui qui croit en lui, mais en tant que Fils et fille de Dieu. Dans les textes de Luc, je ne vais pas les rappeler, nous étions appelés fils de Dieu étant fils de la résurrection. C'est un lien extrêmement important parce que c'est par la mort et la résurrection de Jésus qu'on devient enfant de Dieu. Pas seulement de Jésus sur une croix clouée avec un corps dessus. Vous savez que dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de familles, il y a ça. C'est un mauvais symbole parce que Jésus n'est plus cloué sur la croix. Jésus est vivant et il est présent et agissant. Donc, quand on fait des images qui trompent, on finit par se tromper. Vous comprenez? C'est comme si au bord de la route, nous avions des panneaux indicateurs vers Bruxelles qui indiquent Berlin. Hein? Et des panneaux indicateurs vers Reims qui indiquent Copenhague. Il y en a qui connaissent les routes et qui ne vont pas se laisser prendre au piège. Et évidemment, ils iront au but. Mais la plupart des gens, il y en a qui vont se taper là, toute la route, aller jusqu'au mauvais but, et puis ils vont revenir et seront paumés. Et donc, c'est encore pire dans une forêt. Quand vous faites des randonnées dans la forêt, il y a des petits panneaux. Et moi, je me rappelle que quelqu'un se plaisait à changer les panneaux exprès pour mettre la pagaille. Je travaillais parfois là-bas à la maison de prière. Quand je vois des gens arriver, ils sortent de la forêt, il y a des petits panneaux, puis tout d'un coup, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui les ont tirés. Alors, je les voyais, ils étaient à 150 mètres de moi, je me suis approché, je dis, écoutez, il manque des panneaux, quelqu'un les a tirés, et si vous passez ici, vous prenez à droite, plus loin, 200-300 mètres plus loin, vous avez de nouveau les panneaux. Vous retrouverez votre chemin. Alors, bon, évidemment, il y en a qui disaient, bon, ils y allaient, et les autres n'avaient pas confiance. Ils retournaient sur leur chemin. Et ils rataient le plaisir de la promenade. Donc, il est clair que l'indication que Dieu a donnée pour devenir fils et fille de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si nous regardons à Jésus et à ses enseignements, nous allons vers lui. Mais si nous ne faisons pas confiance, on fait demi-tour. Ou si on ne veut pas le voir, ben on va erronément jusqu'à des fausses directions, puis on se confond. C'est le principe même du monde aujourd'hui, pour ceux qui croient ou qui refusent Jésus. La finalité, de toute manière, c'est pour Dieu, c'est pas lui le roi de la pagaille, c'est le péché, c'est Satan. La finalité, c'est que tout le monde soit fille ou fils de Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus. Bon, l'opportunité que Dieu a offert aux hommes pour se découvrir une vocation, ce sont les prophètes, c'est la révélation faite en Israël par les prophètes. Il aurait pu choisir un autre peuple. Hein? Mais il a choisi ce peuple-là. On n'a pas à être jaloux, parce que si ça avait été un autre, on aurait pu faire la même jalousie. Alors, on n'a pas à être jaloux de ce que ce soit Israël qui a eu la révélation par les prophètes. En plus, on se rend compte qu'Israël, en son sein, la plupart de la population n'adhérait pas à ce que les prophètes disaient, n'aimait pas ce qu'ils venaient dire. Et donc, c'est une révélation à contre-courant, à contre-sens du poil, contre-nature, contre le péché, si vous voulez, et contre les plaisirs du péché. Donc, l'opportunité qui nous a été offerte, c'est la révélation. Cette révélation aboutit dans la personne de Jésus. Jésus l'a dit, Jean 5, 39, toutes les Écritures rendent témoignage de moi. Ok ? Donc, par l'Écriture, nous savons pourquoi Jésus est venu. C'est pour nous donner le modèle d'un homme sans péché, nous donner une parole sans péché, et payer la dette que nous avons par sa mort, et nous donner la vie par sa résurrection. Donc, le moyen de la rédemption et de la sanctification pour un homme, pour vraiment être un fils ou une fille de Dieu, c'est Jésus. Alors, le troisième point, c'est l'enfant de Dieu est habité du Saint-Esprit. Si nous croyons à la résurrection, l'Esprit Saint, nous l'avons lu, nous avons vu ce texte, l'Esprit Saint est donné aux croyants, c'est l'Esprit même de Jésus, c'est l'Esprit Saint de la résurrection. Alors, celui qui est conduit et habité du Saint-Esprit appartient tout entier à Dieu. Bien qu'il ne soit pas encore parfait, bien qu'il ne soit pas encore rendu semblable complètement à Jésus, il est en chemin pour être changé. Donc, par le Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus continue à travers les hommes qui croient en lui. C'est extrêmement important de savoir que l'Esprit Saint, Dieu lui-même, a choisi d'habiter dans le croyant, d'habiter dans sa vie. C'est nous qui parfois négligeons gravement la qualité du don que Dieu nous a donné. Nous avons des façons de faire, des façons de vivre où réellement on bafoue l'honneur de Dieu, on bafoue sa sainteté, même quand on est chrétien. Et franchement, c'est naturellement le chrétien, quand il s'en rend compte, en rougit, il en a honte, il se corrige. L'esprit de repentance fait partie de la vie, et l'esprit de joie aussi, parce qu'on se rend compte qu'on est bien plus mieux dans la vérité que dans l'erreur, que dans l'égarement, ou que dans le plaisir du péché. On est beaucoup mieux dans la vérité, et beaucoup mieux quand on est en relation avec Jésus, que si on lui tourne le dos, et qu'on tourne alentour de notre nombril pour un certain temps. Donc, la conduction et la sanctification du Saint-Esprit est une grâce qui nous est offerte pour nous amener à réaliser la vocation de fils et de filles de Dieu. Le quatrième point, c'est naturellement qu'il y a l'obéissance. Et l'obéissance, c'est quelque chose qui est plus de notre côté, c'est quelque chose qu'on doit consentir. C'est un consentement libre et volontaire. Je m'offre à Dieu. Je fais de ma vie, de mes pensées, de mon cœur, une offrande à Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et trop peu le comprennent qu'il faut s'offrir en offrande à Dieu. D'abord, en croyant et en faisant confiance absolument tous les jours en lui obéissant. Mais c'est aussi de l'amour. C'est de l'amour. L'obéissance, c'est un acte d'amour. Et l'obéissance, en général, est rapide. Quand elle traîne, elle traîne, elle traîne, c'est qu'on manque réellement d'amour pour Dieu. L'obéissance est prompte. C'est un gros problème pour toutes nos églises, parce que on répète des fois mille et mille fois, et c'est pour moi aussi, hein. Mille fois la même chose pendant des années. Et où va l'obéissance, où va l'offrande de soi à Dieu? C'est réellement parfois très lent, parfois on voit même des marches arrière, même pas d'un ou deux, parfois tout le groupe. Et l'obéissance est quelque chose c'est un acte responsable de notre part, oui, responsable. Et l'obéissance, elle nous amène à quelque chose. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. 1 Corinthiens, au départ, on pouvait toujours projeter les versets sur l'écran pour que tout le monde puisse voir au fur et à mesure de la prédication. Mais c'est un grand danger. Et c'est pour ça qu'on a fait marche arrière, on le fait uniquement pour la première partie et pour les chants. C'est un grand danger, c'est que tout le monde va prendre l'habitude de ne plus ouvrir la Bible. Et d'aller dedans, elle sera alors inutilisable un peu d'un certain temps parce qu'on ne sait plus où est l'épître aux Éphésiens, le livre de Samuel, les chroniques, et on va être dans une pagaille totale parce que, alors, pendant la prédication, on ne projette rien, cherche plutôt dans la Bible, même si ça prend un certain temps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Pour l'obéissance, pour ce consentement libre et volontaire, cette offrande de soi-même à Dieu, eh bien voilà. 1 Corinthiens 6, verset 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça fait beaucoup de monde, hein? L'impudicité, c'est pas seulement je m'habille avec des mini-jupes, je mets un décolleté provoquant pour tout le monde, hein, pour que les hommes, ils n'arrivent pas à lâcher mon corps. Non, c'est pas ça. L'impudicité, c'est aussi bien un homme qui se trimballe torse nu partout et qui fait le malin. C'est moi le caïd, il se trimballe torse nu dès qu'il y a du soleil. L'impudicité n'est pas toujours du côté des femmes. Hein. L'habitude de l'impudicité détruit la prudence. La prudence du regard. Quand on est habillé convenablement, le regard de chacun ne vous dévore pas, ne vous bouffe pas pour vous convoiter. Il y a un danger depuis le péché d'Adam et Ève, c'est que le corps est devenu un objet. Alors qu'avant le péché d'Adam et Ève, le corps n'était pas un objet. Le corps est quelque chose de sacré, quelque chose, c'est comme une maison dans laquelle j'habite et qui doit être honorée par moi-même, par le conjoint, et par le regard des autres. Et les paroles de sous-entendus, etc., grivoises, qui parlent de sexe ou qui font allusion aux galipettes et tout ça, sont d'impudicité aussi. Hein? L'idolâtrie vient, par exemple, c'est le match de football actuellement, ça passe à la télévision partout, hein? C'est des centaines de millions de dollars et d'euros qui passent là-dedans, qui pourraient passer à un règne de justice sur terre. Hein? Il y a de plus en plus de gens qui crèvent de faim sur la terre, qui sont dans la misère, mais non! On dirait que ça se renforce d'année en année, l'idolâtrie. C'est pas que ça, hein? Dans le basket, le volley, tout le reste. Dans les chanteurs, dans le cinéma, etc. On mange une quantité incroyable d'argent dans le luxe des voitures et tout ça, l'idolâtrie. Bien, je prends le cas de notre région, à Saint-Marc, c'est un village de 3-4 000 habitants. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale de mettre un grand écran et de barrer les routes, de demander une permission. Et puis voilà, tout le monde vient avec son chapeau noir, jaune et rouge, avec des cornes, avec ci et ça, des foulards, des drapeaux, des manteaux, enfin, tout ça c'est du fric. Business is business, hein, il y en a qui se frottent les mains. Et pratiquement, il y a des stands, il y a des frites, il y a des hamburgers, il y a des shops. Et puis de la musique à fond, à fond! Je suis passé 2-3 fois pour assister à la scène, pour me rendre compte, parce que j'aime pas de vivre en dehors du monde, je veux vivre dans le monde et voir comment il est, et parce qu'il faut trouver le médicament à ça. Hein. Alors, l'idolâtrie et la bière préférée, bien sûr, lancée par un groupe financier, c'est jupilaire. Alors j'ai inventé un mot. Vous pouvez jupiler, mais vous ne jubilerez pas au ciel. Vous pouvez jupiler. Je jupile, tu jupiles, il jupile, nous jupilons. On boit ensemble, ils boivent tous ensemble. Et ils crient, ils se mettent la gomme là. Les glandes surrénales s'activent, la glande thyroïde s'active, le thymus s'active, et vas-y, on ne se sent plus, ça dure des heures. Attention que le dimanche, de 10h30 à 2-3h de l'après-midi, arrêtons au kiosque, il y a encore la même chose. Et plus on est heureux, plus on monte des tatouages. Plus on monte les petites bretelles, etc., transparentes, et tout le bazar, plus on est relax. Donc, idolâtrie et impudicité vont souvent ensemble. Idolâtrie, il y en a partout actuellement. Mais où va l'idolâtrie? À l'esclavage. Ils apprennent tous à boire. Et puis, je m'excuse, mais si une fille de 14 ans est bien tapée, qu'il y a un gars de 35 ans à côté, qu'il arrive à séduire, elle ira au coin du bois. De toute façon, papa et maman n'ont plus rien à dire. Et de toute façon, il y a le centre pluraliste pour lui donner la pilule d'après, si au cas elle serait enceinte. Et puis il y a les médecins, si au cas elle a des infections rénales. Hein? Et tout ça, c'est l'idolâtrie, les adultères. Et quand on a pris l'habitude, étant jeune, de faire ça, on se marie. Ben, on se marie, il y a une dispute, on ne s'entend plus. Ben, c'est fini, hein? Un an, deux ans, parfois trois mois. Hein? Un mois et demi pour un de nos fils. La fille l'a quitté. Alors, pratiquement, ça peut être 7-8 ans et tout. Et puis, comme on n'est pas content, on n'est plus heureux de toute l'impudicité et des adultères qu'on a provoqués, on se tourne vers le même sexe, les efféminés. Pour les hommes, ben, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, hein, efféminés, c'est les hommes qui se comportent comme des femmes, quoi, qui s'habillent comme des femmes, et les travestis, etc. Hein, les infâmes, voilà, les infâmes, le mot est derrière. On a compris ? Il y en a de plus en plus. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a de plus en plus de liens diaboliques et sataniques avec. Ceux qui pratiquent ça, souvent, ont des puissances sataniques avec eux. Parce qu'ils sont dans l'insécurité, quand ils sont sous le regard des autres, etc. Et puis, entre les homosexuels, il y a des jalousies très, très meurtrières, très dures. J'avais dû étudier ça en théologie, et c'est là qu'il y a le plus haut taux de meurtre, entre les homosexuels, pas entre les hétérosexuels. Alors, hétérosexuel, ça veut dire homme-femme. Les homosexuels, c'est le même sexe. Bien, c'est là qu'il y a le plus haut taux de suicide et pratiquement de jalousie dangereuse. Et pratiquement, l'insécurité qu'offre cette situation, un mal vécu, un mal-être, amène à retrouver des énergies positives chez des marchands d'énergies positives et à chercher des communications avec les morts, communications avec les esprits, pour avoir cette force que le péché ne donne pas. Et voilà, nous y arrivons, hein, nous sommes réellement dans l'idolâtrie, dans le diabolique. Alors, il y a les voleurs, oui, ça y en a de plus en plus, ça se répand. Les cupides, c'est l'amour de l'argent, on peut être très pauvre et extrêmement cupide, hein, ou très riche. La cupidité n'est pas liée à la quantité de biens qu'on a. Cupidité, c'est réellement priorité à l'argent, priorité au bien, à la possession, à tout prix, avec détournement de l'âme par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Les ivrognes, l'ivrogne n'est pas un alcoolique, l'alcoolique est quelqu'un qui, ayant des angoisses ou des troubles de personnalité, va boire, et l'hypothalamus, l'hypophyse sont touchés par l'alcool et l'angoisse disparaît pour un certain temps. C'est un anxiolytique. Mais c'est un trompe-l'œil, parce que ça détruit le foie, ça détruit les artères et des choses pareilles. Mais l'alcoolique, c'est un comportement inadapté. Tandis que l'ivrognerie, c'est quelque chose de différent. L'ivrogne, par exemple, va casser la figure à sa femme, ou va chercher des bagarres dans les cafés. L'ivrogne va rouler comme un fou à 130, 140 dans un village en voiture. L'ivrogne est quelqu'un qui se plaît à combattre toutes les règles de bienséance et qui a pour ça qui prend de l'alcool parce que ça décuple ses instincts négatifs et ça va jusqu'à les tuer ou en tout cas en voiture provoquer des choses graves qui sont comme des meurtres tout compte fait. Les outrageux, ben, c'est ceux qui insultent qui insulte Dieu, mais qui insulte aussi les autres, qui les bafouent. Les ravisseurs, donc le kidnapping, hein, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, je vous donne un exemple, deux, trois petits exemples. Je vais à la pompe à essence, chercher un bidon d'essence hier, puis je vois la pompiste, c'est un peu calme, je la vois, elle a le regard fixe et tout. J'ai toujours l'habitude de voir les visages, les yeux, et puis de fois en fois, je vois les états d'âme, plus ou moins des gens, et je dis, c'est bizarre aujourd'hui, je ne vais pas dire son prénom, vous avez bien le regard, alors je dis, vous n'avez pas l'air d'être contente, non. Et je dis, elle ne dit rien, Mais alors, je dis, vous avez vu, là, il y en a qui passent au carrosse avec la voiture, on n'est même pas sale. C'est un rite, c'est un rituel. Ils passent au carrosse comme ça régulièrement. La voiture n'est pas sale. Elle dit, oui. Puis ils ont l'air de venir toujours aux mêmes heures, hein, juste avant la fin, hein, que je dois partir, hein, pour me tenir la jambe encore après l'heure. Hein. Et, signe avec ça qu'elle me dit. Hein, elle lâche, quoi, elle commence à lâcher. Signe avec ça. Oh, là, il n'y a pas longtemps, je vois une dame qui arrive avec ses enfants en voiture, elle se met derrière une pompe, et moi je fais les caméras, et je vois qu'il se serre, et puis ça dure longtemps derrière la pompe, elle ne vient pas tout de suite payer, alors je mets le zoom, et je regarde, qu'est-ce que je vois, elle avait fait sortir tous les enfants, et ils pissaient contre la pompe à essence. Alors, j'ai pris le micro, je dis, madame, quand vous aurez décidé de venir payer, je vous attends, on va s'expliquer. Et elle vient, et alors, elle paye, et puis, la pompiste, j'apprécie, elle est mère de famille et tout, elle vient pas là pour les beaux yeux de tout le monde, elle vient pour nourrir sa famille. Alors, pratiquement, elle est toujours correcte avec tout le monde, mais elle n'est pas, c'est pas une bêtasse, alors, contrairement à ce que les gens penseraient, alors, ce qu'il y a, je lui dis, madame, il y a un seau d'eau là, et de l'eau de Javel, et... Avec vos enfants, allez laver les pompes. Il y a des autres clients qui passent. Il y a des autres gens qui passent à la pompe. Alors, cette dame répond, je n'en ai rien à foutre. Vous êtes payé pour ça. Et puis, elle porte plainte à la station, à la firme mère, par Internet, la firme mère totale, sur la pompiste en question. Elle porte plainte, oui. L'arrogance. Pourquoi une dame qui a 3-4 enfants et arrogante à ce point-là. Parce que simplement, moi, par l'expérience, c'est parce que ce sont des femmes qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère ou dans l'homosexualité. Elles ont dépassé les limites. Souvent, ça a commencé par l'avortement. Elles ont dépassé les limites de l'interdit. Elles passent à tous les feux rouges. Il n'y a pas de feu rouge. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec ses gosses. Et alors, imaginez ces gosses-là maintenant qui arrivent dans l'école auprès de notre fille Bénédicte ou quelqu'un d'autre, un professeur, de qui vont-ils accepter de reprendre quelque chose, ces enfants? Ils ont vu la mère. Bon, alors, ça ce n'est qu'un exemple, elle en a cité d'autres, les amis. Pas marrant de tenir une pompe à essence, hein. Un autre cas, 2 heures avant, un petit garçon de 10 ans rentre dans la pompe à essence avec sa mère, elle vient payer. Ils font le tour de la boutique, il m'a acheté un gros chewing-gum, et puis tout d'un coup, elle se dit, ça y est, il va encore me faire le coup, parce qu'il y en a déjà deux. Ils sortent, tchou, là, le chewing-gum à terre. Elle sort, elle dit, gamin, tu veux pas ramasser ton chewing-gum et le mettre dans la poubelle qui est là? La mère s'insurge, elle dit, vous n'avez pas commandé mon enfant! N'avait rien à lui dire. Vous êtes payé pour le ramasser. C'est comme ça que moi j'ai vu dans certains villages ici, quand j'allais quelque part pour l'évangile, tout d'un coup je passais, bonjour monsieur, vous venez quoi faire ici? Je venais voir le jeune de 20 ans ou 25 ans. Et alors, j'ai encore causé pour ne rien dire. Hein? Nous on travaille et vous êtes payés pour causer. Vous voyez l'arrogance, la méchanceté. Et tout cela va de pair avec un âme qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas les autres. Et c'est ça la vallée de l'ombre et de la mort. Ce qu'on a vu dans le psaume 23, il y a bien d'autres choses. Il y a bien d'autres choses, les amis. C'est assez pénible. J'avais compassion d'une jeune fille de 19 ans et je l'emmène à peu près à 120 km d'ici, voir son grand-père qui est à la mort, dans un service d'urgence à Montgodine, tout près de Dinan, en Namur. Et pratiquement, c'est vrai qu'il était dans une sale position. Il était dans le coma et provoqué. Il n'était pas bien. Je voyais bien qu'il avait une infection généralisée, la couleur de sa peau et tout ça. Et pratiquement, J'ai dit, on va prier. On a prié, on a chanté des chants et tout. Puis je me suis adressé au grand-père qui est dans le coma parce qu'il entend tout. Moi, il y a des gens que j'ai visités, après le coma, ils me disaient, j'entendais tout. Je ne pouvais pas te répondre, mais tu as bien fait de venir me parler ou prier. Alors, pratiquement, le lendemain, la jeune fille reçoit un coup de téléphone de la grand-mère, très sympathique, qui lui dit, ah, tu sais, vos trucs là, vos prières, ça marche, hein. Le grand-père est sorti du coma, il va mieux. Vos trucs, ça marche. Vous avez bien compris? Alors, pratiquement, ce qu'il y a, il n'y a pas de Dieu là-dedans. C'est un magicien, gourou, je ne sais pas quoi, c'est quand même. Ou de parler un pimpin de tous les genres, ou venir au nom du diable, c'est quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les jours qui ont suivi ce réveil, il y a eu des complications médicales. Et ça n'allait pas trop bien. Et j'avais programmé avec cette jeune fille d'aller revoir le grand-père, parce qu'elle l'aime beaucoup. Et personne ne l'a conduit, on voit. Et bien pratiquement, elle me téléphone et me dit, Jean, elle était triste, triste à mourir, la pauvre. Ils ont décidé dans la famille, vous voyez, mon grand-père est mort. L'euthanasie. Alors, l'euthanasie est arrivée à un moment donné où, même si le grand-père ne pouvait pas parler, il aimait sa petite-fille. Il l'aimait beaucoup. Et la petite-fille l'aimait beaucoup. Ils n'ont pas pu se revoir et se parler, hein, et se communiquer quelque chose d'important. Et moi, je n'ai pas pu prier avec. Combien de fois j'ai eu ça? Je vous le dis, vous prenez de l'âge, faites des papiers. Hein. Faites des papiers, vous êtes dans une société de mal. Hein. De la vallée de l'ombre et de la mort. Hein. Vous avez des problèmes de santé, vous vieillissez, faites des papiers. Hein. Dites bien si vous voulez l'euthanasie ou pas. Et qui doit décider pour vous? Moi, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un qui avait vécu en communauté avec moi. Hein. Ça dépendait de moi de répondre. Je n'avais pas confié le problème de la réponse à un autre. Il faut faire attention, ne vivez pas comme des escargots. Nous sommes dans une société où vous êtes menacés si vous ne voyez pas clair. Vous devez faire un papier concernant votre décès et vos maladies. Et si vous avez des enfants qui ne sont pas encore adultes, vous devez faire aussi un papier pour dire qui s'occuperait de mes enfants au cas où je ne serai plus là. Vous ne pouvez plus laisser rien au hasard. Parce que la société est organisée dans un sens qui n'est pas chrétien. Continuons. 1 Corinthiens 6, 11. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, quelques-uns de vous. Hein, parce que tous les idolâtres, tous les efféminés ne se sont pas convertis. Oh là, évangélisés, il y en a eu quelques-uns qui sont devenus chrétiens. Mais vous avez été lavés. Imaginez, c'est l'image de la saleté. La souillure. Mais vous avez été sanctifié. Donc, sanctifié, c'est-à-dire, vous avez adhéré à la justice de Christ, à la sainteté de Christ, vous avez cru en lui, vous avez reçu le pardon du péché de sa part, et vous avez accepté sa croix et sa résurrection. C'est ça que ça veut dire. Vous avez été justifié, donc pardonné, déclaré juste, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, l'Esprit de notre Dieu et agissant dans la personne qui a été pardonnée de ses péchés, justifiée par le sang de l'agneau, le sang de Christ. C'est extrêmement important que la foi et l'obéissance font partie intégrante de la vie de salut, quand on voit ces versets-là. On ne peut pas avoir une pièce de monnaie avec un recto sans verso. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un pardonné de ses péchés par le sang de Christ sans qu'il y ait l'amour de la sainteté derrière, de la vérité, comme en Christ, dans Christ. C'est indissociable. Alors, ça c'était le quatrième point que je voulais vous rappeler. Le cinquième point, c'est le baptême. Et j'en ai parlé dimanche passé, on n'est pas baptisé par immersion pour être sauvé. Le baptême ne sauve pas. Marc 16, 16. Celui qui croit en moi et qui est baptisé est sauvé. Celui qui ne croit pas en moi est condamné. Donc le baptême ne sauve pas. Donc à partir de Constantin, les baptêmes qui ont été inaugurés dans l'Empire romain, qui sont étendus à tout l'ancien Empire romain, et qui ont été adoptés par la population non convertie, ce baptême qui est censé donner la vie éternelle ne la donne pas. Ce n'est pas dans l'enseignement de Jésus. Et en plus, l'évangile de Marc, 16-16, c'est Pierre qui a enseigné Marc. Et je vous ai dit, si l'apôtre Pierre revenait aujourd'hui à Rome, je ne sais pas lequel des deux qui resterait. Le vrai Pierre ou le faux Pierre? Ça devrait barder. Ça bardera d'ailleurs un jour. Alors, on est baptisé quand on est enseigné, quand on est disciple, quand on a connu ce que Christ a fait pour nous et ce que l'Écriture nous révèle sur la sainteté de Dieu et sur le projet de Dieu pour nous. Comment il faut se comporter quand on est enfant de Dieu? Ça, le baptême suit toujours l'enseignement. Et l'enseignement est donné, non pas pour faire une grosse tête, mais pour être fils de Dieu, fils de la résurrection, fille de Dieu, fille de la résurrection. Pour être trouvé obéissant, par amour, parfois, en Dieu. Quand le baptême est fait, nous sommes, en principe, nous avons fait un acte d'obéissance, hein, puisque Jésus l'a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, mais on dirait que ça nous suffit parfois. Garantie, couverture. Mais non. Allez, faites de tous les disciples, de toutes les nations des disciples, donc des enseignés, didascalos, et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le baptême fait partie des ordres, des ordonnances que Jésus a données. Et le baptême est, pour un chrétien, l'aboutissement obligatoire de sa foi. Le point 6, c'est que quand on est baptisé et qu'on est membre de Jésus, on n'est pas membre tout seul, on est membre de l'Église de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre des textes, 1 Corinthiens 6, verset 15. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Voilà, déjà pour le corps, hein? Pas que l'âme, hein, l'esprit, le corps. Le corps appartient à Christ. Verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifier, c'est au pluriel. C'est pas une forme polie comme en français, où on peut s'adresser à quelqu'un en disant « vous », etc. Ça n'existe pas en grec. La forme polie n'existe pas. C'est la forme plurielle. Donc, c'est un ordre communautaire. Alors, au chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, ça s'adresse à la collectivité chrétienne, à la communauté. Quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Ce que vous êtes, donc, un collectif. Une communauté locale, c'est le temple de Dieu. Il est saint, on ne peut pas le déchirer, le détruire, sous peine d'être rejeté par Dieu. Quand vous voyez ce texte, 1 Corinthiens 3, ne le confondez jamais avec 1 Corinthiens 6, hein, où on vous parle à la fin du chapitre que vous êtes le temple du Saint-Esprit, au verset 19. Ça, c'est l'individualité, c'est la personne dans son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tandis qu'au chapitre 3, c'est la communauté, c'est l'Église locale, c'est les chrétiens. Alors, chez les chrétiens, il y a donc une présence divine qui est à l'œuvre, et le temple de ce Dieu n'est pas fait de pierre, il est fait de chair, c'est nous, c'est l'Église. Être membre les uns des autres, c'est répondre à quelque chose que Dieu a voulu. C'est la vérité que Dieu a voulu, et c'est en même temps notre sécurité. Alors, nous allons dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Verset 16. la coupe de bénédiction que nous bénissons, blablabla, n'est-elle pas la communion au sang de Christ, donc à sa mort, pour nos péchés, il a pris nos péchés, pour nous sauver. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ, hein, son corps avec les clous, les traces des clous dans les mains et les coups de lance. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Donc un seul pain, c'est-à-dire un seul Christ. Nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous participons tous à un même Christ. Donc nous sommes un seul corps. C'est extrêmement important de connaître ces textes pour avoir une idée, une notion exacte de la solidarité chrétienne. Au chapitre 12, verset 12. Chapitre 12, verset 12. Comme le corps est un, il y a plusieurs membres, alors il s'agit ici du corps que ce soit de n'importe qui d'entre nous, ici, hein, deux jambes, deux pieds, deux oreilles, deux, pas deux nez, deux yeux, un nez, avec deux narines, quand même deux. Ça sera embêtant une, ce bouche alors, mais arrangé. Hein. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 12. Le corps est un, comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes des membres d'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, donc l'esprit du ressuscité, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait donc l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait donc l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Bon. Et toute l'explication va comme ça, qu'il n'y a pas de division à entretenir dans une église, il y a un lien d'amour et de solidarité. Vous lirez le reste, mais en tout cas, au verset 27, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La conclusion est donc que l'Église est le corps de Christ. Par la foi et par le sang de Jésus à l'agneau, nous sommes intégrés dans une nouvelle famille. Une nouvelle famille des sauvés. Et nous avons entre nous des liens très forts, non seulement Saint-Esprit, mais au corps, il y a toujours une tête, le Christ. Parce qu'il n'est pas dit que nous sommes la tête, nulle part dans ce texte. C'est le Christ qui est la tête. Si vous voulez prendre Philippiens, la tête, elle dirige les mains, les pieds, tout le reste. Hein? Eh bien, il est clair que c'est Jésus, je pense que c'est dans Philippiens, hein? En tout cas, je vous le signale, Philippiens 2, 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, donc Jésus, ressuscité et élevé au ciel, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, donc le Christ, le Maître, à la gloire de Dieu le Père. Il y a un autre texte avec « Il est la tête ». Dans Colossiens peut-être.
Non, Philippiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
C'est Philippiens 2 quoi ?
2:10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Non, c'est pas ça.
Colossiens 1:17.
Colossiens 1:17.
Donc, dans Colossiens, au chapitre 2, verset 9, en lui habite corporellement, donc dans le corps hein, de Christ, hein, toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc, clairement, la tête du corps, c'est le Christ. Le Seigneur, le maître de l'Église, c'est ni un évêque, ni un pape, ni que quoi que ce soit, c'est le Christ. Ça remet les choses à la place, n'est-ce pas, de lire ces textes. Et la condition est d'accepter la solidarité entre le pied et la main, l'œil et l'oreille. La condition, c'est de s'accepter comme membre de l'Église de Jésus-Christ. Ça fait partie même de l'identité du chrétien. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une institution. L'Église est spirituelle. C'est l'ensemble des rachetés, des sauvés qui ont la foi en Jésus et qui ont accepté son enseignement, qui le vivent et qui sont baptisés en ayant compris quel est l'appel de Dieu pour leur vie. Être fils et fille de Dieu.
C'est 1 Colossiens, c'est Michel qui l'a dit, 1 Colossiens 1, 17 et 18. Le verset que tu cherchais, il est
oui.
Là. Mais lis-le parce que j'ai pas mes lunettes, mais c'est là. 1 Colossiens, Épître aux Colossiens 1, 17 et 18.
Oui, c'est ça. Donc Jésus, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Nous avons vu clairement avec ce texte, c'est celui-là, qu'il fallait lire tout de suite, mais je n'ai pas pu retrouver. Et pratiquement, vous voyez, c'est un corps habité et commandé, habité du Saint-Esprit, solidaire, dans l'amour, dans la vérité, qui est commandé par le Christ. J'avais toujours aimé Don Bosco. J'ai lu quand j'étais enfant, j'admirais la vie des saints et tout ça, je mangeais tout ça, je lisais tout ça. J'admirais Don Bosco, toutes ses œuvres et tout ça, l'accueil des pauvres, les institutions, les salésiens, c'est ça. Jusqu'au jour où je tombe sur un de ses écrits, mais j'avais quoi, 55 ans. Où il dit que le pape est supérieur au Christ. C'était fini. Pour moi, c'est réglé. C'est réglé. C'est terminé dans vos soins. J'ai vu ça une fois, la visite de Jean-Paul II à l'île de Cuba. Il y avait des catholiques qui étaient interviewés par la télévision. Et ces catholiques cubains qui avaient subi le communisme, c'est pas marrant, et ce qu'il y a qui disait que c'était pour eux le Christ, il était même plus grand que le Christ. On n'en finit pas. Marie est plus grande que le Christ, a beaucoup de place, etc. On a tout renversé, on a bafoué le sang et le nom de Christ, et il faut que dans les églises, la vraie église de Christ, met le Christ à sa place et rien d'autre. Le reste s'appelle de l'apostasie. Le sens biblique. Alors, ça c'était le sixième point. L'Église est le corps habité de Christ et l'Église est commandée par le Christ et le Saint-Esprit. Mais l'aboutissement de cette Église, c'est clair, les enfants vont vers la gloire, ils ne vont pas vers le malheur. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, vous savez qu'au début de ce chapitre, l'amour qui fait le lien entre les vrais chrétiens. Pendant la nuit, j'ai mal dormi, j'avais beaucoup travaillé derrière et tout ça, j'ai mon cœur qui s'emballait, j'ai dû reprendre des médicaments, mais pour me calmer, je suis venu ici, 4h du matin. Et je repensais à toutes les amitiés que j'ai construites, reçues, et puis perdu après. À l'école, un différent d'école, un mouvement de jeunesse, et puis un mouvement de jeunes, du groupe de travail, puis l'entreprise, etc. Et pour finir, il ne reste pas grand-chose. Quelques amis, quelques rares amis. Mais pratiquement, à partir du moment où réellement j'ai trouvé par des hommes et des femmes qui sont venus à notre rencontre le vrai évangile, nous avons des amis sûrs, mais sûrs jusqu'à la fin, jusque dans l'éternité. Dans la semaine, nous avons eu la visite d'un homme qui venait de l'Indiana, tout près du lac Michigan, 3-4 jours, à l'imprévu. J'étais en train de travailler, je me retourne. Et c'est un vrai ami. Et puis il est reparti. Nous avons des amis comme ça. Nous allons partir 2 semaines pour visiter des vrais amis en Christ. C'est vraiment des gens, des amis pour toujours. Je vois une nette différence entre le faux et le vrai. Le vrai est en Christ. Et donc, ce que vous avez vu, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 13 à propos de l'amour, c'est l'amour en Christ. Parce qu'il y en a qui prennent ça comme texte à un mariage, c'est beau, c'est magnifique, mais il n'y a pas le Christ. Et ce n'est pas étonnant, après ça tourne mal quand même. Eh bien, finalement, au bout du chemin de cet amour, de cette solidarité-là, Paul dit, il fait une conclusion, 1 Corinthiens 13, verset 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je deviens homme ou femme quand j'ai une réelle relation avec Christ. Je l'ai accepté dans ma vie et j'ai donné ma vie, je vis avec lui. C'est ça la stature d'homme et de femme accomplie. » Verset 12. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. » À cette époque-là, c'était des plaques d'étain. On les polissait, on frottait. C'était pas le miroir en verre sur lequel on a mis du nitrate d'argent derrière qui s'est déposé, le miroir actuel. C'était une plaque en étain, épaisse. On la polissait, donc on voyait, allez, 70-70%. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face, donc Jésus en face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je connaîtrai les anges, les saints, comme eux me voient déjà. Il y a donc une gloire inouïe, inouïe dans notre vie, qui nous est promise. Dans Jean 11, 25, nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Pour nous, nous avons la victoire sur la mort. Ce n'est que comme un sommeil. On s'arrête et puis on se réveillera. On se réveille. C'est pourquoi dans la Bible, souvent, la mort est considérée comme un sommeil pour les chrétiens. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, Martin, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc, Jean, chapitre 11, versets 25 et 27. Quand je vois quelqu'un qui meurt, et que je l'ai déjà accompagné de plusieurs années, et que j'arrive, il est dans un sale état, et qu'elle est la famille là, et que je lui dis, j'arrive et je lui dis, « Est-ce que ça va bien ?» C'est outrageux pour les autres. Qu'est-ce que me répond la personne qui est chrétienne? Oui, je parle avec Jésus. Elle est en paix. Elle part en paix. Je le fais exprès pour provoquer les autres. Leur donner un coup de pied dans les fesses. Et la personne, elle fait ce qu'elle doit. Oui, je parle avec Jésus. Ce sont deux mondes. Deux mondes séparés. Complètement opposés dans lesquels nous vivons. Ne cherchez pas à faire une mixture, ça ne marchera jamais. Jamais. La mixture, elle est foutue d'avance. Nous allons vers un banquet. Vous savez bien, Apocalypse 19, 29. C'est quand même pas mal les banquets. On aime tout ça, tôt ou tard. Hein? Je ne sais pas s'il y aura du caviar ou des frites, j'en sais rien. Ou des macaronis. Les spaghettis, il n'en sait rien. Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Ce qui compte, en tout cas, au banquet, c'est qu'il y a l'époux et l'épouse. Incomparable, habillés de gloire. L'épouse, c'est Jésus, l'épouse, c'est nous. Alors, L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont pris au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et bien sûr, nous avons le même texte dans Isaïe. Hein. Il ne faut pas se tracasser. Il y a plusieurs textes dans Isaïe sur l'annonce de ces repas de noces. Et on va en lire un, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous voyez les gens qui vont à la mairie ou à l'église, ou aux deux, avec une belle robe blanche, hein, la femme, parfois l'homme aussi, mais un costume blanc, ça dépend du pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une nostalgie de ce que Dieu leur a promis. Ils ont une nostalgie de ce qu'ils ont perdu. Mais sans le Christ, elle ne va pas rester longtemps blanche, cette robe. Ça, je vous le dis. Elle va être souillée par le péché entre les deux, rapidement. Le péché va détruire cette robe. Ésaïe, chapitre 25, je pense. Le symbole ne dépasse pas la réalité. Le symbole de la blancheur de la sainteté doit correspondre à la réalité. Si nous vivons en Jésus, la robe blanche correspondra à ce que nous sommes. Mais si nous mettons une robe blanche sans être ce que Jésus veut, la robe blanche est pourrie d'avance. Et combien de fois, ça se voit partout. Ésaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées, donc des anges, prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin, donc c'est un banquet de mets succulents. Est-ce que c'est du bisque de homard? Est-ce que c'est des frites? Je n'en sais rien, ça, on verra bien. Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Vous voyez que Dieu n'est pas contre le vin. Il est contre l'ivrognerie. C'est différent. Le vin représente les biens messianiques, représente la joie, représente la fête. Regardez les noces de Cana. Quand Jean dit, pour la première fois, Jésus fit voir sa gloire, pour la première fois, aux noces de Cana. C'était le signe de ce que Jésus venait pour ça ici. Ésaïe 25. Sur cette montagne, à Jérusalem, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages et fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Vous voyez que la foi est une base. La foi est la base. C'est pas un sacrement. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. C'est la foi qui est couronnée et récompensée, c'est pas les sacrements. Qu'est-ce qu'on a trompé les gens? Bien sûr, l'aboutissement, s'il y a la gloire, il y a aussi le jugement des impies, la condamnation. Et puis, il y a une gloire qu'on verra, c'est Apocalypse 21. Une gloire, même sur terre. Même sur terre. Apocalypse 21. Il y a un jour pour la terre aussi. Parce qu'elle a été trop souillée par nos péchés. Trop souillée par les iniquités de l'homme. Apocalypse 21. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre avait disparu. Ben oui. Une terre polluée à un point qu'il n'y a plus moyen de la nettoyer, hein, c'est clair, on avance tout droit dedans, et la mer n'était plus. La mer polluée n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle, c'est-à-dire la tente, la maison, c'est Jésus. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dans les cris et les douleurs, ça dépend de l'état de santé qu'on a, mais c'est horrible. Ça peut être horrible, les cris et les douleurs. Hein? Tout ça est disparu. Je me rappelle avoir fait une façade à une maison. On faisait la façade de devant, mais on était derrière. Et derrière, bien sûr, les gens ne voyaient pas ça. Il y avait la maison d'à côté, il y avait un pré, un jardin, et il y avait trois gaillards de 20, 25 ans, mongols, trisomiques. Dans la même maison, ils avaient eu trois fils trisomiques. Ils hurlaient comme des chimpanzés, des ouistiti dans le pré. Ça hurlait tout le temps, on a travaillé là, mais moi, mon vœu, franchement, c'est qu'un jour, les nouveaux cieux et la nouvelle terre arrivent, et que ces trois êtres-là qui ont été abîmés par la maladie soient réellement à part entière, conscients, avec un corps sain. Tous les enfants avortés, qu'ils aient leur corps accompli sur la terre, qu'ils puissent vivre. Ils n'ont pas été conçus par hasard. Il n'y a rien par hasard. Il n'y a que pour les hommes que les hasards existent, parce que l'homme est ignorant des plans de Dieu. Tout sera dans la gloire. C'est l'aboutissement de quoi ? De la foi. L'aboutissement de la foi. La fois prochaine, nous parlerons, mais ce sera plus tard, presque dans un mois, de la falsification de l'itinéraire chrétien. Toutes les falsifications proposées qui trompent, qui peuvent tromper les chrétiens. Ici, ce que je vous ai donné, c'est un ensemble biblique. En espérant que nous puissions accomplir des baptêmes cette année-ci dans l'Église et que tout le monde soit en ordre avec le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas quand il vient. Hein. Alors, tout à l'heure, je vous le disais, l'obéissance est prompte. Il vaut mieux, avec le Seigneur, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Après. Alors, je vous invite à prendre le pain et le vin dans la mesure où votre vie, vous estimez que votre vie est en ordre avec le Seigneur, que vous êtes en conformité avec la parole de Dieu. Mais là, j'ai pas le choix. Vous savez ce que Jésus a dit lors du dernier repas? Vous savez? Oui. Jésus prit le pain, il rendit grâce à Dieu, il le rompit et dit, ceci est mon corps livré pour vous, en rémission de vos péchés. Il prit ensuite la coupe de vin, il dit, ceci est mon sang versé pour vous, en rémission de vos péchés. Buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. L'apôtre Paul ajoute dans 2 Corinthiens chapitre 11 « Apprenez à discerner le corps et le sang de Christ pour ne pas opérer un jugement sur vous-même. » Seigneur notre Dieu, nous voulons célébrer ton amour, ton sacrifice et ta résurrection. Nous voulons célébrer, Seigneur, cette vocation chrétienne dont nous venons de parler aujourd'hui. Seigneur, incline nos cœurs à t'aimer, à t'obéir et à marcher dans ta grâce, dans ta parole. Amen.
Amour. t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, fond de mon cœur. Je voudrais chanter, je voudrais chanter de joie et de paix. Je voudrais pleurer, je voudrais pleurer de félicité. Je voudrais te dire, je voudrais te dire toute la vérité.